Comment fait-on pour dissoudre le travail et la chaîne? Comment fait-on pour découdre la chanson et la peine? Canuse, chenuse, chenuse, canuse.
Bonsoir, c'est le magazine sur Radio B, une émission consacrée à l'écriture, celle d'un roman, marque de fabrique qui nous fait voyager à travers le temps, celui d'une époque qui nous paraît à la fois si lointaine et si contemporaine, à la fois qu'on s'y croirait. Un temps où l'exploitation de l'être humain s'affranchissait de toutes les règles d'usage défendues par un corps aujourd'hui en grande souffrance, autant que celles et ceux qu'il défend, l'inspection du travail. Un voyage dans le temps en pleine révolution industrielle et dans l'un en particulier. Deux héroïnes sans se connaître enquêtent sur deux mystères imbriqués l'un dans l'autre. Mort suspecte, disparition inquiétante dans l'univers de la soie et de la filature et même celui des glacières de Silan. Trois lieux que connaît bien notre romancière d'un soir, la lyonnaise de naissance, indinoise de cœur et aujourd'hui romancière, Cécile Baudin. Cécile, bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde.
Vous êtes née à Lyon, mais avez-vous beaucoup voyagé et habité désormais en région parisienne? Quel est votre lien avec le département de l'Ain?
J'ai un lien familial et affectif avec le département de l'Ain. Mes grands-parents en étaient originaires. Mes grands-parents paternels du côté de Châles-la-Montagne et puis mes grands-parents maternels du côté de Trévoux. Donc j'ai passé à peu près 100% de mes vacances scolaires, notamment à Trévoux en particulier, jusqu'à ma majorité. Voilà. Donc,
Alors vous êtes très, très attaché aux régions et à leur histoire. Alors pour quelles raisons?
Parce que je voyage un petit peu hors de France et à chaque fois que je reviens, je me dis que vraiment, on a un pays qui est extrêmement diversifié et d'une région à l'autre et qui présente la particularité de montrer dans ces régions, dans son patrimoine, alors architectural, industriel, toute son histoire et toutes ses différences. Il n'y a pas beaucoup de pays où on peut avoir toutes les époques, toutes différentes d'une région à l'autre. C'est un livre ouvert, en fait, la France. C'est un décor de cinéma, où qu'on aille, et c'est ça que je trouve chouette.
Quel était votre rapport avec la lecture et l'écriture lorsque vous avez appris à lire et à écrire?
Alors, assez vite, dès que j'ai appris à lire et à écrire, j'ai aimé vraiment beaucoup les deux. J'ai beaucoup lu et beaucoup écrit des histoires. C'était vraiment une façon pour moi écrire, de faire que les histoires finissaient plus comme je voulais que comme elles finissaient pour de vrai. Donc voilà, ça m'a beaucoup amusée au collège notamment. Et voilà, c'était vraiment une façon de... À l'époque, il n'y avait bien sûr pas les téléphones ou les réseaux sociaux. Donc c'était un imaginaire accessible partout et tout le temps. Et, oui. Et j'ai adoré ça.
Il n'y avait pas
ça.
Internet. Hein.
Ah non, bah non, bah non, moi. Voilà.
On peut le dire.
Les années 70-80, non.
Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers livres et puis de vos premiers auteurs et autrices?
Que j'ai aimé lire complètement, en sixième notamment. J'adorais les romans historiques. Alors bien sûr, avec l'Iliade, l'Odyssée, mais les péplums notamment, Covadis, Les derniers jours de Pompéi, j'adorais ça. Après, je me suis plongée dans les Christian Jacques. Donc là, j'ai fait tous les Christian Jacques, les Jeanne Bourrin. Voilà, je trouvais que c'était extrêmement dépaysant et absolument passionnant. Voilà, j'ai adoré ça jusqu'à découvrir Agatha Christie en quatrième. Voilà, et là, je me suis un peu plus penchée sur le policier.
Quelle était la place du français à l'école? Vous qui avez fait des études scientifiques, vous aimiez cette matière?
J'étais pas la plus douée en français de la classe. Alors, j'avais une maman, j'ai toujours une maman prof de français, donc qui était quand même assez à cheval sur l'expression, voilà, il fallait pas massacrer la langue française à la maison, ça c'est certain. Mais j'étais pas particulièrement douée. J'aimais ça, j'aimais les mots, je trouvais que parfois c'était très beau, que les poésies c'était beau, les pièces de théâtre c'était beau. Je trouvais juste que c'était joli, mais comme on trouve joli un beau tableau ou une chouette musique. Voilà, j'avais pas de don particulier pour ça, pour être honnête.
Votre rêve d'enfant était l'écriture, d'après ce que j'ai lu.
C'est vrai.
Avant votre premier roman, c'était uniquement un rêve. Vous n'avez jamais écrit avant Marque de Fabrique?
J'ai écrit quand j'étais petite. J'ai écrit au collège des histoires, des romans. J'ai écrit au lycée. Et puis après, j'ai arrêté parce que la vraie vie nous rattrape et que ça fait partie de ces espèces de fantasmes qu'on a en se disant, tiens, voilà, un jour peut-être. Et donc, c'est resté à l'état de fantasme très, très longtemps. C'est mon mari, ces derniers temps, il y a 2 ans, qui m'a dit « Écoute, quand même, t'en rêves depuis toujours, tu devrais essayer, on n'a plus les gamins à la maison, vas-y, lance-toi. Et c'est sur ces conseils que effectivement, j'ai renoué avec cette vieille passion.
Comme pendant votre enfance, votre métier vous a amené à voyager dans différentes régions de France, est-ce que c'était facile de changer de lieu de vie ? On s'adapte facilement, que l'on soit enfant ou adulte ?
Moi, j'ai toujours aimé ça. Franchement, quand mes parents déménageaient, ça rendait un peu mon petit frère malheureux, mais moi, j'adorais ça. Je trouvais que c'était à chaque fois une promesse de renouveau et à chaque fois une occasion de mieux faire qu'avant. D'être peut-être plus, je ne sais pas, d'avoir de plus chouettes copines encore, d'avoir de meilleures notes encore, de rencontrer des gens ou des endroits, découvrir des endroits plus chouettes encore. Et pour moi, déménager, ça a toujours été vraiment une source d'exaltation et de nouveauté. Alors, petite, c'était déjà ça. Et quand j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise qui me proposait des mutations tous les 2-3 ans, moi, j'adorais ça. Je trouvais que c'était super. Et puis que c'était l'occasion de se faire des amis et du réseau dans des tas de régions qui sont toutes attachantes. Et vraiment, c'est ce qu'on découvre quand on bouge, c'est qu'on peut avoir parfois des a priori sur telle ou telle région. Et moi, je les ai trouvées toutes, vraiment toutes passionnantes, toutes formidables.
Avant de concrétiser votre rêve d'enfant, l'écriture, vous étiez lectrice, forcément assidue. Votre pile à lire était haute.
Ma pile à lire était très haute, ouais. Et très chronophage. Et je me rappelle notamment de l'année du bac, où j'ai eu le grand bonheur et le grand malheur de découvrir Stephen King, et notamment à travers quand même un pavé qui était ça, et qu'il fallait à tout prix que je finisse avant le bac, sinon je ne pouvais pas réviser. Voilà, donc ça me prenait tellement tout mon temps que ça a été terrible, terrible. Il a fallu que je lise jour et nuit pour le finir avant le bac. Donc oui, c'est vrai que j'étais une lectrice assidue et heureuse.
Quels sont encore aujourd'hui vos genres de prédilection ?
J'avoue que j'aime beaucoup, plutôt les romans, bien sûr, et en particulier les romans policiers. Voilà. Donc là, par exemple, je viens de finir « Souviens-toi de Sarah » de Paige Coman. Je viens de finir aussi « Toute blesse à dernière tue » de Karen Gibel. J'aime bien Minier, j'aime bien Norek. Voilà, c'est très classique, hein, rien de très original. Et puis je lis aussi des romans que je découvre de gens que je rencontre dans ces nouvelles activités. Ouais. J'ai lu récemment La Petite de Sarah Perret aux éditions Terre de France aussi, qui est très chouette, le prix Jean Anglade 2022. Donc voilà, ça me permet aussi d'élargir un peu ma palette de lecture.
Ouais. Certains parlent de littérature de gare à propos des polars ou de littérature noire en opposition à la littérature générale qualifiée de littérature blanche. Vous comprenez qu'on puisse opposer les lectrices et les lecteurs comme s'il n'était pas possible de se mélanger ?
Alors, c'est d'autant plus vrai comme question qu'en plus, moi, je revendique un attachement au terroir et au patrimoine local. Moi, j'ai toujours trouvé, en tant que lectrice, que la littérature populaire, au sens très large du terme, quelle que soit la couleur qu'on lui donne, et ben, à chaque fois qu'elle permettait aux gens de venir au livre, de se mettre dans un livre et de prendre plaisir à un livre, et ben, elle était toujours réussie. Voilà. Donc, je n'ai jamais accordé de jugement de valeur ou de traitement particulier à tel genre ou tel genre. À partir du moment où, et c'est pas facile dans un monde numérique, hein, mais à partir du moment où un roman et un romancier parvient à garder les gens entre des pages de papier, bah c'est un exploit tel que franchement, moi, j'admire.
Alors, vous êtes lancé dans l'écriture de votre premier livre en 2019, j'ai lu.
Oui, 2019-2020, hein, oui.
Quel a été le signe déclencheur ? Pourquoi avoir attendu si longtemps, finalement ?
Pour des questions très prosaïques de vraie vie, Michel. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez un vrai boulot, 2 à 3 enfants à la maison et un crédit à rembourser, vous n'avez un peu pas le temps. Voilà. En tout cas, moi, je n'avais pas le temps.
Bah, comme en font certaines, alors ?
Alors, ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Ils arrivent à se concentrer les week-ends et les vacances. Et moi, je ne pouvais pas. Moi, j'ai besoin d'être vraiment libre dans ma tête. Ce n'est même pas tant une question de gestion du temps. C'est vraiment... mon esprit est tout entier dédié à une histoire que je suis en train d'écrire. Et j'ai du mal, en même temps, à penser au prochain rendez-vous chez le pédiatre ou chez le dentiste. Quoi. Donc, c'est vrai que j'ai de fait, par la force des choses, c'était pas planifié, attendu une 50aine d'années et ce moment de la vie où finalement, je trouve, on retrouve une certaine forme de liberté personnelle, intellectuelle, familiale et qui finalement nous libère quelque chose qu'on n'a jamais eu, qui est du temps. Mmh. Et c'est une vraie question de se dire, bon, ce temps-là, finalement, qu'est-ce que j'en fais ? Et moi, j'ai voulu essayer de lui donner du sens comme ça.
Vous aviez une idée très précise de ce que vous vouliez écrire ? Ça aurait pu être autre chose qu'un roman policier, par exemple ?
Non, ça n'aurait pas pu, je crois. Non, ça n'aurait pas pu parce que j'aime cet enjeu. Dans le roman policier, ce que j'aime, c'est qu'il y a quelque chose de dramatique. Il n'est pas forcément gore, trash ou violent, mais il y a une espèce de tension dramatique qui va donner de l'importance à tout, aux personnages, à leurs actions, à leurs décisions. J'aime aussi beaucoup dans les romans policiers, c'est ce que j'aimais chez Conan Doyle ou Agatha Christie, j'aime cette espèce d'architecture, de réflexion, d'énigme, avec des déductions, des observations, presque cette espèce de puzzle intellectuel qu'est aussi le policier. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime essayer de reproduire, en tout cas.
Alors comment avez-vous construit ce premier roman, que ce soit les lieux, les personnages et la trame du livre ?
Moi, je suis partie plutôt des lieux, au départ. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur l'histoire industrielle de l'Ain, qui est très riche, hein, c'était le, et c'est toujours d'ailleurs le premier département industriel de France en pourcentage de la population active occupée à un emploi industriel. Donc j'ai travaillé sur les lieux et je suis tombée sur des endroits et des métiers super. Je suis très attachée au métier aussi. Hein. Donc, je suis tombée sur ces tréfileries à Trévoux, le travail des métaux précieux, c'est très beau, c'est presque poétique. Je suis tombée sur ces glacières de Silan que je connaissais pour passer sur l'autoroute, mais sans trop savoir ce qui s'y était véritablement passé. J'ai trouvé que c'était passionnant. Et puis, je me suis dit, mais c'est vrai, tiens, avant les frigos, comment on faisait pour avoir de la glace ? Je suis tombée sur le musée donc, des Soirées Bonnet et les bâtiments, c'est de toute beauté. Voilà, donc c'est plutôt ces lieux qui m'ont inspirée. Je me suis dit, mais finalement, dans ces endroits, qu'est-ce qui aurait pu s'y passer ? Si des choses terribles ou étonnantes, énigmatiques, avaient pu s'y passer, ben, qu'est-ce que ça aurait été ? Et en fait, c'est les lieux qui m'ont inspirée, les lieux et les gens qui y ont travaillé, les ouvriers, les ouvrières qui ont fait ces endroits. C'est eux qui m'ont inspirée en réalité.
D'où vous est venue l'histoire de ces deux personnages principaux, hein, deux femmes en l'occurrence, la période, la fin du 19e siècle, et pourquoi dans l'Ain ?
Alors dans l'Ain, parce que oui. Je voulais une histoire en pleine révolution industrielle et que l'Ain, ça s'y prêtait.
D'accord.
Bien.
Okay.
J'aime bien l'idée de que ces deux histoires, parce qu'effectivement le livre raconte deux histoires d'abord indépendantes et parallèles et qui ensuite se rencontrent et se croisent. J'aime bien cette idée en général dans la vie, que finalement une histoire n'est complète que si on l'aborde par plusieurs angles de vue, plusieurs parfois personnalités, plusieurs âges aussi pour comprendre pour lire une situation. Et c'est ça que je trouvais intéressant et amusant, c'était d'avoir ces deux héroïnes très différentes en âge, en caractère, en ambition et en origine, mais finalement qui incarnent deux points de vue d'une même situation. Et c'est lorsqu'on met ces deux points de vue ensemble, ces deux observations ensemble, qu'on a une vue d'ensemble et qu'on peut résoudre une énigme. Moi, je trouve que dans la vie, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des points de vue un peu complémentaires qui nous donnent une lecture plus fine et plus profonde d'une histoire.
Qu'est-ce qui vous fascine dans cette France de la fin du 19e siècle ?
Oh là là, beaucoup de choses. Je la trouve très romanesque. D'abord, bien sûr, toutes les grandes évolutions technologiques. C'est incroyable. Il faut imaginer qu'en 50 ans, les gens sont passés de la roue à eau à l'électricité, au gaz, ils ont découvert le chemin de fer et le téléphone en 20 ou 30 ans, ça a tout changé, ça a changé les métiers, ça a changé les villes, ça a changé tout. Et ces bouleversements ont bien évidemment modifié profondément, y compris notre vie réglementaire, hein, puisque tout ce qu'on va vivre au XXe siècle, les grands règlements, les lois, c'est le cas notamment du droit du travail, ça date de cette époque. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec notre époque d'aujourd'hui, bouleversée par l'ère numérique, qui change les métiers, qui permet de travailler de chez soi, enfin, qui change considérablement les choses d'une manière, dont, à mon avis, dont on n'a pas encore complètement vu toutes les conséquences. Et voilà, c'est la première chose que je trouve passionnante dans le 19e. Et puis, une autre chose que je trouve passionnante, c'est qu'un peu en réponse à ces grandes évolutions, c'est un siècle d'émancipation. Fin du 19e, c'est l'émancipation, les premières en tout cas émancipations des femmes, les premières sociétés féministes, les émancipations des ouvriers avec les premières lois jusqu'aux lois sur les syndicats à la fin du siècle, les inspections du travail, les émancipations vis-à-vis de la religion aussi, qui vont donner 1905 et la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc ça aussi, ça ressemble un petit peu à aujourd'hui, avec à la fois des grands bouleversements, mais en même temps qui sont générateurs de souhaits d'émancipation. Et les deux ensemble, je trouve ça très, très romanesque.
Sur votre site internet, www.cécilebaudin.fr, vous expliquez que, je cite, « C'est tout naturellement que j'ai choisi de marier mon attachement au travail ouvrier avec ma curiosité pour les spécialités régionales. Qu'est-ce qui vous lie au monde ouvrier ?»
J'ai travaillé, donc avant d'écrire des livres, j'ai travaillé pendant 25 ans et j'ai travaillé dans des mondes ouvriers uniquement. J'ai travaillé dans le transport, dans le BTP, dans les déchets. Alors, en tant que ce qu'on appelle responsable d'exploitation, en manageant des...
Pas du côté ouvrier.
Alors, pas du côté ouvrier, bien que j'ai mon permis de transport en commun, Michel. Voilà. Mais plutôt...
Mais ça, tout le monde peut l'avoir, ça.
Ah bah oui, bah essayez-vous. Hein.
Non, non.
Non, alors plutôt, effectivement, en management de services et d'exploitation, j'ai fait du planning, j'ai fait des prépayes, et à la fin, j'étais DRH, voilà, dans le BTP. Et puis à mon compte, donc le nombre de fois où je me suis dit en 25 ans, quand je voyais travailler un plombier, un couvreur, ou même quand je trouvais que c'était tellement beau, c'était tellement chouette ce que faisaient les gens, et je me disais c'est quand même terrible que je sois la seule à voir ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'une beauté, c'est d'une intelligence, c'est les savoir-faire, c'est magnifique. Et voilà, c'est pour ça que je suis assez contente aujourd'hui de pouvoir raconter des savoir-faire et la fierté du savoir-faire ouvrier qui va avec, la beauté du geste, la beauté du travail bien fait. J'ai toujours trouvé que c'était très poétique.
Avec votre roman, est-ce que c'est un peu comme si vous aviez un devoir de mémoire envers toute cette classe et parmi elles, les femmes que l'on a exploitées? Fin 19e siècle, c'était un petit peu ça aussi quand même.
Bien sûr, les femmes, ouais. Les enfants, c'est effectivement en filigrane le thème du livre.
Les hommes aussi, hein.
Les hommes, absolument. Les hommes aussi frappés par d'abord une condition sociale et puis des déterminismes, hein, même dans les familles plutôt... qu'on pourrait qualifier de bourgeoise, ce n'était pas forcément que rigolo non plus pour les hommes, donc absolument. Un devoir de mémoire, alors je ne me permettrai pas, mais en tout cas, je suis contente d'avoir l'impression de redonner vie effectivement à ces gens et de montrer, alors sans misérabilisme pour autant, parce qu'il y a aussi des très belles choses, encore une fois, beaucoup de fierté dans ces époques, mais aussi de montrer ce qu'était cette situation. Ça nous permet aussi parfois de relativiser peut-être un peu les choses qu'on connaît aujourd'hui et qu'on vit aujourd'hui et de les replacer quand même dans un contexte un peu relatif et historique. Mais je me suis rendu compte en travaillant ce livre, en le préparant, que je n'étais pas du tout la seule à avoir cette ambition. Et il y a des gens, il y a des tas de gens qui travaillent notamment à reconstituer les effectifs, par exemple aux soieries, qui travaillent à essayer de faire sortir de l'ombre ces gens et le travail qu'ils ont fait.
Pour écrire votre roman, vous êtes replongé dans l'Inde, votre enfance, et vous êtes rendu sur les lieux des disparitions. Vous aviez quelle image de ces lieux avant d'y retourner ?
J'en avais une image finalement moins précise, bien sûr, et puis assez, finalement assez plate, presque pas vivante, presque comme un décor de cinéma. C'était finalement, j'en avais une image assez figée. Et quand je m'y suis plongée, dans les archives, dans les cartes postales, dans les images, dans les explications des métiers, tout d'un coup, ils ont pris vie. C'est comme s'ils avaient gagné une dimension particulière. C'est un vrai voyage dans le temps, en réalité. Et tout d'un coup, quelque chose arrive, une espèce de relief comme ça, des bruits, des odeurs, des gens qui bougent. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'avec de l'imagination, on redonne vie à des endroits qui paraissent morts et qui en fait ne le sont pas.
Pour écrire votre roman, vous avez eu besoin de vous informer et de vous documenter. Quelles personnes avez-vous rencontrées et quels lieux avez-vous fréquenté ?
J'ai été en contact. Alors d'abord, j'ai passé du temps aux archives. Hein. Aux archives à Bourg, où il y a un fonds extraordinaire et où vous retrouvez alors, des PV d'inspecteurs du travail de l'époque, pour voir comment ils travaillaient.
L'inspectrice aussi, non ?
Alors, pas inspectrice, pas dans l'Ain. Il y en avait plus du côté de Paris, mais il y en avait quelques-unes, mais pas là. Ça, c'est une invention totale. Mais voilà, vous retrouvez des PV d'inspecteurs, vous retrouvez énormément de fonds iconographiques aussi, vous retrouvez des comptes rendus de réunions qui vous permettent de voir un peu de quoi on parlait quand on parlait de travail. Voilà, donc on retrouve toute cette histoire-là aux archives. Bien sûr, j'ai passé du temps alors aux glacières. J'étais en contact avec un jeune homme qui fait visiter les glacières et dont l'arrière-grand-père, d'ailleurs, y travaillait, qui s'appelle Sylvain Poncet, qui est guide du côté de Nantua. Et d'ailleurs, il a accepté que je donne le nom de son arrière-grand-père à un des personnages dans l'histoire. J'étais en contact aussi avec un monsieur qui travaille, monsieur Dupont, qui a travaillé, qui est un ancien gareur, un ancien tisseur des soieries, Bonnet, qui m'a expliqué plein de choses, qui m'a fait visiter, qui m'a fait une visite un petit peu hors des clous, des soieries, qui a été aussi très contributif. Voilà, c'est ce genre de personnes qu'on rencontre et qui nous permettent d'essayer d'être le plus plausible, le plus respectueux possible de la réalité.
Un auteur indinois, Robert Ferrari, a mené l'enquête avant vous du côté des soieries de de Jujurieux, puisque son livre est sorti quelques mois avant le vôtre. C'est vraiment un lieu idéal pour mener l'enquête. C'est un lieu mystérieux.
Alors, c'est un lieu mystérieux. D'abord, c'est un lieu qui, dans sa physionomie, a des aspects très... Ça rappelle un peu une prison. C'est très carcéral. C'est grands murs, avares de fenêtres... comme ça c'est assez mystérieux. C'est des grandes pièces, du coup on a l'impression qu'il pourrait y avoir des fantômes. Il y a des passages, d'ailleurs aujourd'hui, hein, il y a des passages mystérieux, il y a des caves, il y a des souterrains qui vont d'un bâtiment à l'autre, voilà. Et donc c'est vrai que c'est très cinématographique, je trouve, c'est très visuel. Et puis, c'est assez mystérieux quand on a un peu d'imagination. Oui. Et on peut comprendre que des jeunes filles, des enfants, fermés la nuit dans ces grands murs et dans ces grandes salles, ça devait effectivement être un petit peu inquiétant.
Après l'écriture de ce roman, quels ont été vos premiers lecteurs, vos premières lectrices qui ont découvert Marc de Fabrique, et quelles ont été leurs réactions, leurs critiques, au tout début hein.
Mes premiers lecteurs et lectrices sont par ordre d'apparition à l'écran. Mon mari, bien sûr, voilà. Parce que j'ai une infinie confiance en lui. Je sais que s'il trouve que c'est pas bien, il me le dira. Voilà. Et c'est peut-être celui qui hésitera le moins à me le dire. Donc c'est pour ça qu'il est mon premier lecteur. Ouais. S'il me dit c'est bien, alors c'est que peut-être c'est vrai. Voilà. Si c'est pas bien, il me le dira. Ensuite, j'ai ma maman, bien sûr, prof de français de son état, qui vérifie qu'il n'y a pas d'énormité technique dans mon écriture. Et puis une ou deux copines qui me donnent aussi son avis sur l'histoire. Et c'est seulement une fois que ces 3-4 ont lu que je transmets à mon éditeur.
Quels ont été les premiers avis ?
Ah bah, leurs avis étaient positifs. Bon, mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils m'aiment beaucoup et qu'ils sont gentils. Oui. Et voilà. Mais les premiers avis étaient très très positifs. Et c'est d'ailleurs à l'issue de l'avis de mon mari que j'ai envoyé le manuscrit tout simplement par la poste, comme on dit, à l'éditeur qui l'a découvert.
Est-ce que c'est un livre que vous vouliez forcément éditer, faire connaître ? Vous auriez pu le garder pour vous et vos proches ?
Au départ, j'étais pas forcément partie avec l'obsession en tout cas d'être éditée. J'écrivais pour moi, j'écrivais pour mon plaisir, j'écrivais pour me montrer que je pouvais le faire déjà, commencer quelque chose et finir un projet, parce que c'est un projet, un livre, hein. C'est un projet dans le temps, donc il faut le finir. Alors, bien sûr, après, quand vous en avez fait un, deux, que vos proches vous lisent et vous disent que c'est super, tu devrais l'envoyer, etc., bah, y a un moment, vous commencez à y croire. Au début, non, très humblement. Et puis après, vous commencez à y croire. Vous vous dites, tiens, pourquoi pas ? Oh, puis vous vous dites, je vais le faire. Après tout, ça ne coûte rien. Et puis voilà, parfois ça marche.
Vous vouliez éditer à compte d'auteur ou trouver avec un éditeur ? C'était quoi l'objectif ?
Au départ, je me suis dit, je vais l'envoyer à un éditeur parce que je croyais naïvement que les maisons d'édition en général faisaient des retours, voilà, donnaient leur avis, disaient ce qu'elles en pensaient. Bon, quand j'ai compris qu'elles en recevaient des milliers par an, j'ai compris qu'elles n'avaient pas le temps de le faire. Bon. Mais pour autant, non, je me disais, bah, si ça plaît à un éditeur, pourquoi pas ? Et si je ne trouve pas d'éditeur, au bout d'un moment, c'est pas grave, je peux essayer l'auto-édition. Voilà, je n'avais pas d'attente particulière. Je me disais, de toute façon, si ce livre, ou en tout cas si ces histoires doivent avoir une vie, elles auront une vie, presque sans moi. Malgré moi, j'avais relativement confiance. Je me disais que c'était une question de temps avant que peut-être ils trouvent leur chemin.
Vous avez tout d'abord été publié par France Loisirs en 2022. Comment vous êtes-vous retrouvée aux Presses de la Cité dans la collection Terre de France ?
Alors en fait, ça a commencé, si je puis dire, par les Presses de la Cité qui font partie du groupe Editis. Et le groupe Editis dispose d'une plateforme numérique sur laquelle les aspirants écrivains peuvent déposer leurs manuscrits, histoire d'éviter d'avoir à envoyer des pavés par la poste. Ouais. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait. J'ai déposé mon manuscrit sur cette plateforme, et puis voilà. Et les Presses de la Cité m'ont rappelé quelques temps après donc, pour l'éditer. Et il se trouve qu'en parallèle, elles l'ont présenté à France Loisirs, qui a voulu en faire son exclusivité pendant 6 mois. Donc il a tourné chez France Loisirs pendant 6 mois, avant d'être édité par les Presses de la Cité en mars 2023.
La collection Terre de France fait penser au terme employé par certains pour qualifier les livres de terroir, ce qui peut avoir une connotation péjorative. Quelle serait la meilleure définition de la collection Terre de France ?
Terre de France, pour moi, c'est une collection que je qualifierais, mais bon, en tant que lectrice, hein, de romanesque, au bon sens du terme, populaire, au bon sens du terme, et provinciale, au bon sens du terme. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui visent à à mettre en valeur des régions, des personnages, assez romanesques qui vivent des aventures finalement qui nous font voyager, qui nous transportent, qui nous font rêver d'une certaine manière et en même temps qui nous parlent des gens qu'auraient pu être nos aïeux, nos parents, autour de nous. Voilà. Donc c'est une littérature qui est proche, je pense, des gens, de leurs souvenirs, de leurs émotions, peut-être même de leur intime. Et en ça, moi, je trouve que c'est très noble.
Alors, on parle aussi de notion de ruralité qui peut être subjective et puis s'adresse finalement à tous les lieux où se déroule un livre. Peut-on dire qu'un roman est forcément un livre de terroir ? Les Minier ou les Mélissa d'Acosta sont aussi des livres de terroir, quelque part. Chacun son terroir.
À partir du moment où un livre, c'est comme un film, à partir du moment où un livre a un décor, voilà. Il a un terroir. Mais peut-être que la littérature de terroir, je ne suis pas une experte, mais peut-être que la littérature de terroir va traiter le décor comme un personnage. Il est un personnage à part entière, oui. Ce décor. Il influe, il compte, il impacte l'histoire d'une certaine manière. Voilà.
C'est pas forcément le cas des romans de Bernard Minier, par exemple, Les Pyrénées ou
Si, bien sûr. Après, vous savez, par exemple, un roman comme Marc de Fabrique, on peut le qualifier de roman de terroir, roman policier, roman historique. On peut le qualifier de plein de choses, de roman énigme, de roman puzzle. Donc, finalement, cataloguer un livre est toujours, je trouve, un exercice un petit peu délicat et un petit peu difficile. Moi, il y a des policiers que j'ai lus et qui m'ont frappé plutôt par leur côté, par l'affect, par les histoires d'amour, ou qu'ils racontaient presque plus que par l'énigme policière en tant que telle. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, je ne suis pas très à l'aise, moi, avec le fait de cataloguer des livres. Bon, il faut bien, à un moment donné, les ranger dans un rayon plutôt qu'un autre. Oui. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, ça a une praticité pour les... les vendeurs.
Oui, un avantage, puis un inconvénient pour le livre, peut-être aussi.
Oui, forcément, parce que, bien évidemment, une fois que vous êtes catalogué comme ci ou comme ça, on a l'impression que ça réduit un petit peu potentiellement le lectorat. Donc, mais moi, j'ai confiance dans les lecteurs. Je pense que les lecteurs sont bien plus libres qu'on ne le pense et qu'on ne voudrait peut-être qu'ils soient. Donc, le jour où ils aiment une histoire, et je pense qu'ils s'en fichent un peu de savoir dans quel registre ou dans quel catalogue on l'a mis.
La pochette de Marc de Fabrique a changé lors du passage de France Loisirs aux éditions des Presses de la Cité. La première faisait moins polar.
L'auteur n'est pas le décideur des couvertures. Ah. Non, puisque les droits appartiennent aux éditeurs. Donc c'est tout ça pour dire que les raisons pour lesquelles un éditeur va choisir plutôt telle couverture que telle autre lui appartiennent. C'est un professionnel, l'éditeur. Donc il sait quel est son lectorat, il sait aussi ce qui peut accrocher le regard, il sait aussi ce qui peut marcher en la matière. Donc j'imagine que du coup, France Loisirs a choisi une image qui était susceptible d'accrocher le regard de ses lecteurs que l'éditeur connaît bien. J'ai eu des retours à chaque fois plutôt positifs, des gens qui me disaient, même parfois, certains m'ont dit « on a acheté votre livre à cause de la couverture ». Donc voilà, je pense que la couverture a fait son travail.
Comment avez-vous travaillé avec les éditeurs ? Vous avez dû enlever, modifier, supprimer quelques mots, quelques passages ?
Assez peu, globalement. Oui, il y a 2-3 passages que j'ai dû modifier. Certains qui étaient peut-être un petit peu trop osés.
Ah bon?
Oui. Voilà, mais hormis ça, assez peu. Je trouve que, en tout cas, je parle pour ce que j'en connais, moi, et avec mon éditeur et pour ce livre, je trouve qu'on nous laisse une grande liberté et de ton et les apports de l'éditeur sont vraiment très pertinents, c'est-à-dire que vraiment ça cherche vraiment à améliorer, ça cherche pas du tout à dénaturer ou à transformer ou même à rendre un peu plus fade. C'est véritablement un travail collaboratif pour mettre en valeur une phrase, un mot encore meilleur que le vôtre, et moi j'ai trouvé que toutes les contributions de l'éditeur en la matière étaient pertinentes.
Il n'y a rien de frustrant.
Ah, pas du tout. Non, et puis alors, je pense qu'il faut être assez cool avec ça. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est une œuvre qu'on a produite, mais moi, mon seul intérêt, ma seule ambition, c'est que cette histoire plaise au plus grand nombre. Et pour cela, il faut que je fasse confiance à tous les professionnels que cette histoire va rencontrer sur son chemin. Il faut faire confiance aux gens qui font les maquettes, il faut faire confiance à l'éditeur, il faut faire confiance au correcteur, il faut faire confiance au libraire, il faut faire confiance aux gens qui vont lui donner une vraie vie. Il faut être humble avec ça, il faut prendre toutes ces contributions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des aides. On a tous le même intérêt.
le résultat de tout ce travail d'écriture, d'échange avec les éditeurs, de changement à la fois de pochette et d'éditeur, est à la sortie tout d'abord le 31 août donc 2022 chez France Loisirs, puis le 9 mars 2023 aux éditions Les Presses de la Cité dans la collection Terre de France de votre premier roman Marque de Fabrique. Alors, que se passe-t-il en 1893 du côté de Trévoux, de Silan et Jurieu?
Alors, que se passe-t-il en 1893 à Trévoux, un jeune fileur d'or, puisque à Trévoux, on travaillait les fils d'or avec les filières qui rendaient donc ces fils de plus en plus fins. Un jeune fileur d'or est retrouvé suicidé. Il s'est pendu dans les mêmes fils de métaux précieux que ceux qu'il façonnait lui-même. Et une jeune inspectrice du travail est sur les lieux qui trouve ça un petit peu étrange. Bon. Et quelques semaines plus tard, cette même inspectrice se retrouve sur les lieux d'un deuxième accident mystérieux au glacier de Silan, où un ouvrier est retrouvé congelé dans la glace et il s'est manifestement noyé. Mais ce qui va quand même attirer l'attention de cette jeune inspectrice du travail, c'est que ces deux ouvriers qui ne se connaissaient pas et à plusieurs dizaines de kilomètres l'un de l'autre étaient de parfaits sosies. Et elle ne peut croire en la coïncidence et elle commence son enquête sur ces deux jeunes hommes de cette façon. C'est Claude Tardy. Claude et l'enquête de, oui, l'enquête de l'inspectrice. De l'autre côté, dans une usine pensionnat de Soiry, une religieuse qui surveille les jeunes filles, puisque c'était les religieuses qui manageaient, qui tenaient ces établissements, une religieuse s'étonne de l'extrême ressemblance entre une nouvelle petite fille arrivée pour travailler et une jeune femme qui est partie des années plus tôt et n'a plus jamais donné signe de vie. Et cette ressemblance intrigue cette religieuse qui va également, elle, enquêter sur ce qu'est devenue cette pensionnaire disparue. Ces deux enquêtes, l'une sur donc des morts suspectes et l'autre sur des disparitions inquiétantes, en réalité sont les deux manifestations d'un même mystère.
De ces deux personnages, donc Claude Tardy, inspectrice du travail, et puis Sœur Placide, lequel vous ressemble le plus?
Ah, ça, c'est une très bonne question que je me suis posée. Mon ancien patron, qui m'a appelée il y a 2 jours, m'a dit « Oh là là, mais la petite jeune, c'est vous, elle est casse-pieds comme vous, etc. » Donc, bon, ça, c'est la version de mon patron. Moi, très sincèrement, je pense que je suis vraiment les deux. À 50 ans, je suis vraiment les deux. Je suis à la fois cette femme, Sœur Placide, cette religieuse, allez, des fois, parfois un peu fatiguée, déjà un petit peu désabusée, un peu vieille, un peu, voilà, qui a attaqué la dernière partie de sa vie en ayant conscience. Et en ayant conscience aussi d'avoir pas fait que des bons choix. Et en même temps, je suis toujours cette jeune femme idéaliste, ambitieuse, qui a envie que la justice passe. Voilà. Et justement, je trouve que c'est très beau d'être une femme à une cinquantaine d'années parce qu'on est ces deux-là. On est exactement ces deux-là. On est déjà une femme mûre, voire mature. Et on est encore jeune, on a encore beaucoup d'idéaux en nous. Et c'est ça qui est chouette.
Comment avez-vous choisi les noms de famille de vos personnages? Il y a un clin d'œil, il y a des personnes en particulier?
Non, alors Didier Culet, qui est libraire à Bénaud, m'a fait remarquer que Tardy avait peut-être quelque chose à voir avec Adèle Blanc-Sec. En fait, j'ai tout simplement, je me suis inspirée des noms de famille les plus donnés dans le département. Voilà, histoire d'être le plus proche possible d'un certain réalisme. Je suis allée chercher les noms de famille les plus donnés, les patronymes les plus donnés, et j'ai choisi ceux qui me semblaient coller assez bien avec mes prénoms. Je choisis d'abord mes prénoms, en fonction de comment j'imagine mes personnages, et ensuite je leur choisis un nom qui va bien avec.
Ouais, pour Sœur Placide, on le saura qu'à la fin, ça.
Ah, Sœur Placide, on le saura qu'à la fin.
Il y a toujours une part d'autobiographie dans les livres. Quelle est la vôtre dans Marque de Fabrique?
Alors, ce n'est pas vraiment autobiographique. Après, je crois que les gens qui écrivent, finalement, restituent des tas de choses qu'ils ont vues, entendues, observées, vécues, ne serait-ce que pour donner ce côté réaliste et charnel et plausible à ce qu'ils racontent. Donc, forcément, c'est mon cas, sans que ce soit autobiographique, mais bien évidemment, notamment ce que peuvent parfois ressentir des femmes dans des mondes d'hommes. Pour faire simple, oui, bien évidemment, je m'inspire de choses que j'ai pu voir, percevoir moi-même ou des copines me raconter. Voilà, ça, c'est bien évidemment. Mais ce n'est pas pour autant que c'est autobiographique. On s'inspire forcément de tas de choses qu'on a entendues et on les réagence pour essayer d'en faire quelque chose d'original.
Claude Tardy est une inspectrice du travail qui doit se déguiser en homme pour pouvoir accéder aux entreprises où il y a des machines et des hommes. Vous n'avez pas choisi la facilité avec ce personnage. Elle est là, votre part de féminisme?
Alors, je n'ai pas choisi la facilité, non, mais ce n'est pas ma faute. Hein.
C'est l'histoire
Si à l'époque, on laissait les femmes tranquilles, ça aurait été beaucoup plus simple.
Oui, c'est pas simple.
Non, c'est pas simple. Mais effectivement, en fait, c'est assez symptomatique d'une certaine forme d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on est bien content de trouver les femmes à l'époque pour travailler, et notamment travailler aussi au contrôle du travail. Mais pour autant, on ne les laisse pas accéder. Donc, c'est quand même pas facile comme équation à résoudre.
Ça en arrangeait certains.
Ça en arrangeait. Et puis, puis à l'époque, les femmes étaient considérées comme des petites choses fragiles. Enfin, elles étaient à deux doigts de porter malheur, hein, accessoirement. Donc voilà, on les écartait volontiers. Le livre explique aussi par endroits qu'on les écartait de certains programmes scolaires. On s'étonne de ne pas avoir eu de femmes ingénieures ensuite beaucoup au XXe siècle, mais si on ne leur apprend pas les mathématiques, les sciences, c'est sûr que ce n'est pas facile. Hein. La part de féminisme, elle est simplement dans le fait que j'admire qu'il y ait eu à l'époque, parce que ça a dû exister, ça a existé, des gens qui étaient assez visionnaires finalement. Les premières personnes à chercher des émancipations à cette époque sont... Moi, je les admire énormément parce que ce n'est pas facile de... C'est facile presque aujourd'hui d'être féministe. Mais à l'époque, il faut être drôlement visionnaire pour penser que c'est vers cela que la société va aller. Il faut être drôlement courageux pour se positionner. Et c'est à ces femmes-là que j'ai voulu rendre hommage.
Dans votre roman, il y a beaucoup d'hommes, mais pour une fois, ils n'ont pas la part belle. Et les héros sont des femmes. Certes, elles ne sont pas au pouvoir, mais le représentent à leur façon. 120 ans plus tard, alors qu'est-ce qui a changé ?
Oh ben beaucoup de choses, heureusement. Heureusement, beaucoup de choses.
Oui et non ?
Alors, non, beaucoup de choses. Non. Il faut quand même... Moi, j'étais DRH et je n'ai jamais vu, aucun de mes patrons se comporter mal ou traiter différemment, consciemment différemment, une jeune femme d'un jeune homme. Donc les choses ont quand même considérablement changé et c'est tant mieux. Mais ce qui effectivement est... Ce qui peut rester, c'est l'idée qu'il faut quand même, à un moment donné, aider les choses à changer.
C'est encore un combat.
C'est toujours un combat. Mais toutes les choses qui vont gêner un ordre établi sont des combats. Et surtout, effectivement, ils ne sont jamais gagnés. C'est le propre de ces questions. Elles ne sont jamais gagnées. Donc, tous les jours, là où on est, avec nos enfants, nos filles, nos garçons, nos patrons, nos collègues, nos maris... Dieu sait que je ne suis pas militante du tout de la chose, mais je suis vigilante à ce que ma fille grandisse dans un monde où elle ait au moins autant de possibilités que j'en ai eues. C'est tout.
De tous ces métiers croisés à travers Marque de Fabrique, lequel auriez-vous aimé exercer ? Inspectrice du travail, celui de Sœur Placide ou un autre ?
C'est une bonne question. J'aurais tendance à vous dire inspectrice du travail, forcément. Mais j'ai adoré réfléchir au travail des métaux. C'est un très très beau travail que d'arriver à transformer un bâton de métal en un fil tellement fin. J'ai trouvé que c'était très très joli.
Celui de Sœur Placide, non.
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 Je ne suis pas assez patiente avec les enfants.
Le titre de votre roman est Marque de Fabrique. Il aurait pu s'appeler autrement. Les éditeurs auraient essayé de vous le faire changer.
Ils auraient pu, s'ils avaient trouvé que le titre n'était pas... adapté ou pas pertinent, ils me l'auraient dit. Mais en l'occurrence, ils l'ont bien aimé et je n'ai jamais envisagé d'autre option. Il s'est vraiment imposé à moi. Et c'est un titre, en plus, qui a plusieurs niveaux de lecture. Puisque vous avez lu l'histoire, Michel, vous devinez peut-être qu'il y a, un clin d'œil dans ce titre particulier, mais je n'en dirai pas plus.
Bien, il faudrait que j'en lise alors une deuxième fois. Alors.
Je vous expliquerai.
Ouais. L'Ain a toujours été fortement industrialisé, vous le disiez, c'est toujours le premier département de France au niveau industriel. Et qui dit industrie dit forcément monde ouvrier. Pourquoi avoir choisi ce camp, je dirais presque cette classe dans cette histoire ? Vous aviez envie de les défendre et puis qu'un polar ne se passe pas qu'avec des gens de classe moyenne ?
Oui, alors... C'est vrai qu'en ce moment, en France, on parle beaucoup de réindustrialisation. Ce qui sous-entend qu'il y a eu désindustrialisation, ça on en parle beaucoup, mais ça veut dire qu'un jour, il y a eu industrialisation. C'est-à-dire qu'un jour, il y a eu des gens pour découvrir, fabriquer des savoir-faire et des métiers. Et c'est à eux que je m'intéresse. Je trouve que dans les années, mais c'est un avis personnel, hein, je trouve que dans les années 80-90, on a eu tendance à trop dévaloriser les métiers manuels, alors que c'était des métiers très beaux, très nobles, générateur de beaucoup de fierté pour qui les faisait, même dans des conditions difficiles, même dans des conditions très difficiles. Et j'ai toujours trouvé ça très dommage. C'est aussi une façon de rendre hommage à tous ces métiers qu'on a un petit peu redécouverts avec le Covid, pour certains d'ailleurs, qu'on a qualifiés d'essentiels. Et je pense qu'à chaque fois qu'on peut leur rendre justice et montrer à tout le monde que ça peut être beau, nécessaire et vraiment admirable, il faut le faire.
Pour une fois, le héros, c'est pas un héros de classe moyenne.
Non, moi j'aime bien, dans mes histoires, j'aime bien que les héros soient des gens, j'allais dire normaux, des gens lambda, placés dans des situations originales et étranges.
Oui, ils ont le droit aussi.
Ils ont le droit aussi. Mmh. Et j'aime bien, du coup, qu'ils aient des raisonnements qui soient finalement assez pragmatiques. Pas forcément intellectualisés ou intellectualisants, mais qui soient pragmatiques. J'aime bien ça, moi, je trouve ça finalement... En tout cas, je m'identifie plus à ces gens-là, oui, assurément.
Détriez-vous aux soirées du jury en passant par les glacières de Sinan aux mines de Bellegarde sur Valserine. Quatre lieux aujourd'hui disparus ou qui sont devenus des musées. Comment raconte-t-on des histoires dans des lieux, soit qui ont disparu, ou soit qui n'ont pas existé, ce qui est le cas des soirées Perrin?
C'est assez difficile, en fait. Alors, à Bellegarde...
J'en dis trop, parce que c'est la...
À Bellegarde, il n'y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus rien, donc il faut imaginer. En fait, il y a une part de reconstitution, il y a une part de création de décor, comme on le ferait dans un film, et il y a une part d'imagination pour boucher tous les trous. Parce que vous allez lire que allez, ça se passait comme ça, les horaires c'était comme ça, la machine était comme ça, mais il vous manque des choses là au milieu de tout ça. Donc il va falloir les imaginer. Alors avec du bon sens, et aussi malgré tout l'expérience qu'on a de la vie et des métiers, on peut imaginer. Et on arrive au final à reconstituer, mais c'est une reconstitution. Ce n'est pas un travail d'historien du tout, hein. C'est un travail de romancier. Et le romancier, il va reconstituer comme on construirait un décor. C'est pas vrai, mais quand même, ça ressemble à la réalité et ça permet de faire évoluer les gens de manière réaliste.
Marque de fabrique se passe à la fin du 19e siècle. Ça a été facile de faire voyager vos personnages. Alors à l'époque, il n'était question que de cheval et de cheval de fer.
Oui. Alors c'est déjà bien, hein, le chemin de fer, hein, parce que dans le roman qui sortira l'année prochaine, on est 50 ans plus tôt, 60 ans plus tôt, et là, en gros, on n'a que le cheval et les jambes. Hein. Au moins, le chemin de fer, c'est plus facile parce qu'il fait gagner quand même déjà beaucoup de temps. Hein, beaucoup de temps. Et il est très développé à l'époque. Hein. Le système ferroviaire français est plus développé à la fin du 19e qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein. En termes de longueur de ligne, et bien plus. Hein. Donc, c'est vrai qu'on va partout à l'époque en chemin de fer, on va partout, les mondes industriels, toutes les usines, sont quasiment desservies par le chemin de fer. Donc c'est formidable. Il y a une bonne cadence, ça va assez vite, c'est financièrement accessible. Donc, c'était formidable le chemin de fer à l'époque. Et ça permet du coup de faire voyager ces personnages assez vite. Ça, c'est génial.
Et vous avez, non pas forcément pris le train, parce que souvent, elle n'existe plus. Pour faire voyager vos personnages, vous avez fait voyage avec eux, que ce soit en voiture ou en train?
En fait, au moment où on écrit, on vit complètement avec eux. On vit avec eux tout le temps, on dort avec eux, on mange avec eux. C'est d'ailleurs pas facile pour l'entourage, parce qu'on est un peu inaccessible pendant cette période-là. On fait répéter trois fois les questions, enfin voilà, on est un peu pénible. Et on voyage avec eux, ne serait-ce encore une fois que pour que les choses soient aussi réalistes. Donc moi, il y a parfois des trajets que je fais à pied, pour voir si ça monte, si ça descend, si c'est fatigant, combien de temps ça prend. Je veux voir ce qu'on ressent, je veux voir comment est la lumière à telle heure. Donc, en général, quand ils ont marché dans des endroits, moi aussi avant.
Hein. Écrire un roman, c'est physique aussi?
C'est une imprégnation, c'est une implication. Alors oui, parfois c'est physique, oui.
Le livre est l'occasion de voyager à travers le département de l'Ain. Donc, on parle souvent de la Bresse et de la Dombes réputées pour leurs poulets et leurs étangs. On parle moins du Bugey et du Haut-Bugey. Avec Marc de Fabrique, on ne fait pas qui passer, on s'y arrête. Et ça donne envie d'aller visiter le musée de la soierie à Jugerieux et le glacière de Sinan.
Alors effectivement, ce sont deux endroits qui se visitent, contrairement aux mines de Bellegarde ou aux Tréfileries, et qui sont vraiment très actifs en plus. Hein. Et, alors surtout pour les soieries, il y a un musée, il y a un magasin, il y a des guides, il y a vraiment matière à se replonger. Il y a encore les machines. Et puis il y a une forme de modernité aux soieries, hein, puisqu'on y parle aussi beaucoup de mode, de soie, voilà. Les glacières, c'est forcément un petit peu plus... c'est un peu plus calme, c'est certain, hein, puisque c'est ouvert sur l'extérieur. Parce que finalement, on redécouvre aussi tous les métiers qui transitaient à travers les glacières et qui y étaient représentés.
Je pensais qu'il y avait un musée à Trévoux. Le musée de Trévoux et ses trésors.
Il y a effectivement un musée, mais qui met plus en avant les filières que la tréfilerie en tant que telle.
D'accord.
C'est-à-dire l'outil.
Il y a un rouet.
Oui, c'est une espèce de rouet, exactement, avec une pierre précieuse au milieu, suffisamment solide pour permettre au fil de s'amoindrir de passage en passage et encore. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, l'utilisation des diamants dans les filières est une invention très volscienne.
Pour beaucoup, c'est Lyon, la capitale de la soie, là, a quand même donné sa part. Mine de rien.
En fait, les industriels de l'époque avaient à peu près les mêmes problèmes que les industriels d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le coût du foncier était très cher lorsqu'il s'agissait de s'installer au milieu des villes. Il n'y avait pas la place, ça coûtait des sous, c'était pas facile de recruter. Au moins, quand on allait un petit peu plus loin, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à l'époque pour les soieries Bonnet qui étaient parties de Lyon pour s'expatrier, si je puis dire, on retrouvait du foncier, on retrouvait de la possibilité d'avoir de l'espace. On pouvait d'ailleurs petit à petit faire de quoi loger aussi ses ouvriers. On pouvait recruter des ouvriers dans toute la zone qui n'avaient du coup pas besoin d'aller dans la grande ville. C'était quand même plus pratique pour tout le monde. Donc, ils avaient les mêmes problèmes qu'aujourd'hui et ça explique aussi cette organisation géographique.
Alors, Marc de Fabrique est le premier roman d'une trilogie, je vous cite, dédié au 19e siècle et à la transformation d'une société locale, artisanale et rurale en un écosystème mondialisé et industriel. C'est beau. Vous avez déjà prévu de sortir deux romans. Là où le diable ne peut atteindre en 2024 et Dur comme fer en 2025.
Oui, alors les titres ne sont peut-être pas toujours arrêtés, mais c'est l'idée.
C'est forcément la suite des aventures de Claude Tardy et Sœur Placide où vous laisserez d'autres femmes, d'autres hommes mener l'enquête.
Alors, c'est trois histoires complètement indépendantes. Je reste dans le 19e, mais ces trois histoires sont trois éclairages très différents du 19e, trois régions différentes, des héros différents et des histoires différentes. Le prochain se passera dans la Lozère du début du siècle, donc là, complètement différent, et on suivra l'enquête menée par un lieutenant de Louveterie et une jeune bonne. Et le troisième, effectivement, Dur comme fer, se passera dans la Lorraine du fer, dans les mines de fer, les hauts fourneaux, à l'époque des grandes migrations italiennes, plutôt à l'extrême fin du siècle. Trois éclairages de trois endroits et trois périodes du siècle.
Et les héros sont des...
Là, les héros sont quasiment que des hommes dans le troisième.
Et toujours pas de policiers en héros?
Eh ben non, je laisse ça à ceux qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi, je m'intéresse vraiment aux gens lambda, placé dans des situations incroyables, parce que je pense que ça arrive plus souvent qu'on ne croit que des gens, justement, pas forcément préparés à ça, se retrouvent dans ce type de situation. Et je les imagine curieux et volontaires. Et j'aime bien l'idée que ce ne soit pas facile, du coup, pour eux, parce que c'est un peu plus facile pour la police qui a des moyens. Lorsque ce ne sont pas des policiers qui enquêtent, c'est pas facile, parce que là il va falloir faire preuve d'imagination pour aller trouver ces indices et ces solutions.
On ne s'improvise ni policier ni détective privé.
Bien sûr que non. Alors c'est vrai que moi j'écris dans une époque où on n'a pas besoin de tests ADN, on n'a pas besoin de choses comme ça, donc c'est quand même beaucoup plus facile.
Vous avez des envies d'écrire autre chose que des polars ?
Je n'imagine pas écrire autre chose. Je n'imagine pas parce que j'ai besoin de cette tension. Par contre, je me vois très bien changer d'endroit, d'époque, de héros, faire des héros récurrents et toujours allier l'histoire d'un polar, c'est-à-dire d'une énigme, au moins d'une énigme, avec la condition de vie des personnes. Voilà. Allier ces deux histoires, ces deux mondes-là continuent à me passionner, même si je change d'époque ou de contexte.
Marc de Fabrique sort à l'automne en poche aux éditions 10-18. C'est une sacrée marque de confiance de la part d'un éditeur. Ça va vous permettre de vendre et de vous faire connaître plus facilement?
D'abord, ça permet de toucher plus largement des gens parce que
c'est moins cher
et voilà. Donc, c'est vrai que chacun peut choisir le format qui lui correspond pour plein de raisons qui lui sont propres. Il y a des gens qui préfèrent des choses aussi qui prennent moins de place. Donc, voilà, ça permet de complètement élargir son lectorat. Ça permet d'élargir aussi l'avis des prescripteurs ou des critiques ou des gens dans l'intervalle. Certains peuvent ne pas s'intéresser éventuellement à telle collection, mais finalement à telle autre. Donc, ça permet aussi d'élargir ces avis-là. Et puis je suis très fière parce que je trouve que 10-18, en plus, est une collection très chouette. Donc, je suis très fière. C'est sûr que ça permet d'allonger un peu la durée de vie du livre dans un monde où ça va très vite et où les livres sont très vite remplacés par ceux qui arrivent. C'est l'occasion de le faire durer un petit peu plus longtemps. Donc, je ne boude pas mon plaisir.
Quels sont les retours des médias et des lectrices et des lecteurs? Facile de se faire connaître avec un premier roman?
Non, c'est pas facile de se faire connaître avec un premier roman, avec les médias. Merci Michel, hein, au passage.
De rien. Plaisir.
Avec les médias, non, c'est pas évident. Et puis on n'a pas de prise là-dessus, on n'a pas de pouvoir là-dessus, bien sûr. Mais je fais confiance au lecteur. Je fais confiance au lecteur et je fais confiance au libraire, parce que le libraire, c'est le vrai professionnel et le vrai commercial finalement de nos histoires. Donc je fais confiance aux libraires pour lire, pour conseiller, et je fais confiance aux lecteurs pour dire qu'ils ont aimé, et au final j'aime à croire que ça peut suffire.
Alors du côté des médias, de là, bon, ça commence à bouger, hein, avec, je pense, au journal local, ce bel article du samedi 20 mai. Votre éditeur fait son travail, vous lui donnez un coup de main côté recherche ou de point de vente et de promotion, comment ça se passe ?
Mon éditeur fait très très bien son travail d'éditeur, à savoir essayer de le faire connaître, d'obtenir des jolis salons, ce qui a été mon cas, j'ai eu la chance de faire, et c'est pas fini, des salons très sympas. De faire des moments, bah, de vivre des moments comme celui qu'on est en train de vivre. Oui. Voilà. Ensuite, moi, je pense que je peux faire à mon niveau des choses complémentaires en allant voir les gens, en maintenant aussi un lien avec les lecteurs que j'ai eu la chance de rencontrer, en essayant d'incarner d'une certaine manière le livre et l'éditeur. C'est ce que j'essaye de faire et c'est très complémentaire.
Marque de Fabrique est une sacrée mise en avant de notre région et de notre département en particulier. Le département de l'Ain a-t-il eu connaissance de la sortie de votre livre ? Je parle du département, je parle du conseil départemental, parce qu'il n'y a pas que Laurent Gérard et Georges Blanc dans l'Ain quand même.
Non, manifestement pas, mais non, mais il y a plein de gens dans là. Vous parliez tout à l'heure d'un monsieur qui a aussi
Robert
écrit,
Ferrari,
voilà.
Oui.
Donc il y a plein de gens dans là. Il y a plein de gens dans les départements. Hein. Moi, à chaque fois que j'écris sur une région ou un département, je suis loin d'être la première et loin d'être la dernière. Donc il y a plein de gens. Ça reste plus ou moins confidentiel. Ça ne quitte pas toujours les frontières du département. Mais ça, on ne le maîtrise pas toujours, hein. C'est assez difficile. Est-ce que le département l'a eu ? Je l'ignore, je ne saurais pas le dire. En revanche, je sais que des associations, par exemple, hein, pour la conservation du patrimoine, ont relayé l'information. Je les ai contactées et elles ont été charmantes. La plupart du temps, les gens sont assez contents de relayer ces histoires.
La suite presque obligée pour une romancière, c'est le passage en séance dédicace dans les librairies ou les médiathèques. Alors, comment s'y prend-on ? L'aide de votre chargée de presse est importante, ça c'est sûr. Vous faites des recherches par vous-même.
Vous voulez dire pour...
Pour faire des séances dédicaces.
Bien sûr. La dédicace, c'est une rencontre, bien sûr, avec des lecteurs, mais c'est surtout une rencontre entre un auteur et un libraire. Donc, à un moment donné, il a fallu se rencontrer pour de vrai physiquement, se plaire. Il a fallu que le libraire aime bien votre livre, parce que j'imagine que sinon, il est un petit peu moins motivé pour vous accueillir.
Il faut qu'il le lise.
Voilà, il faut qu'il le lise, voilà. Il faut qu'il l'aime, il faut qu'il pense qu'il a un avenir. Donc, c'est avant tout une rencontre entre un auteur et un libraire. Et j'ai rencontré quelques libraires emballés et vraiment adorables, très très sympas, qui ont réservé un excellent accueil au livre. Et effectivement, les dédicaces commencent.
Et les médiathèques, les bibliothèques, enfin les médiathèques on dit maintenant plutôt.
Alors les médiathèques et les bibliothèques bien évidemment s'intéressent à certains livres. Je sais que certaines en ont acquis.
À Perona, ils l'ont.
Voilà, donc certains l'ont acquis et c'est super parce que ça fait découvrir un auteur et ensuite ça peut déboucher le coup d'après sur des achats, sur le fait de faire des cadeaux aux gens. Et voilà, donc tous les moyens sont bons pour petit à petit effectivement percoler dans la région et ailleurs.
Alors vous le disiez, vous avez commencé à faire quelques salons en tant que romancière. Ça fait quoi d'être de l'autre côté de la table ?
C'est hyper intimidant. Franchement, d'abord, on a l'impression d'usurper complètement sa place.
La place de qui ?
Peu importe, mais d'être absolument un imposteur, d'une certaine manière, de l'autre côté de la table. Surtout que moi, j'aime beaucoup lire, donc j'ai toujours eu beaucoup d'admiration lorsque j'allais acheter des bouquins. Quand je suis dans les salons, bien sûr, je travaille pour mon roman, bien sûr, mais je reste aussi lectrice. J'adore parcourir le salon où je suis invitée en tant que lectrice. Et d'ailleurs, mon mari râle parce qu'en général, j'achète plus de livres parfois que je n'en vends. Je ne peux pas m'empêcher d'en acheter à peu près partout. Et il me dit que si je continue comme ça, on ne va pas s'en sortir. Donc j'essaye de me maîtriser maintenant.
C'est dur.
Oui.
Il y a des salons réservés au polar avec ses autrices et ses auteurs. Vous avez fait un salon à Auvers où il y avait...
J'ai fait Auvers-Noir où il y avait des gens...
Il y avait du beau monde.
J'étais très impressionnée. Ouais. Donc j'ai surtout... c'était mon premier en plus. Je ne vis que des premières fois en ce moment. C'est assez intriguant à 50 ans. Mais j'ai surtout écouté, observé, vu comment les gens faisaient. Parce que bon, il y a aussi un savoir-faire. Il y a aussi une compétence quand on est... un auteur en salon, donc moi je ne sais pas faire. Donc j'ai observé les autres, j'ai regardé comme ils faisaient. C'était très instructif et j'étais très impressionnée. Voilà. Donc c'est mes premiers. J'apprends et j'observe. Voilà.
Alors le livre, c'est le papier, mais aussi maintenant l'audiolivre. Vous envisagez un jour de faire enregistrer vos livres ?
C'est rigolo. Tout à l'heure, j'étais à la FNAC là, de Bourg et ils m'ont dit « Ah là là, ce serait quand même vachement bien si vous le lisiez vous-même, si vous l'enregistrez vous-même, comme fait Pierre Lemaître, etc. » Alors je dis « Oui, mais enfin bon, Pierre Lemaître, on écoute Pierre Lemaître, quoi. » Voilà. Alors qu'il faut une compétence particulière. En plus, je pense, pour raconter des histoires, je ne sais pas si je l'aurais. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les audiolivres... Alors, les e-books, les audiolivres, moi, je pense qu'à chaque fois qu'on peut faciliter l'accès aux livres, il n'y a pas de débat à avoir, quoi. Tous les moyens sont bons pour donner accès aux histoires et à l'imagination. Moi, je connais des jeunes, y compris dans ma famille, qui utilisent beaucoup les audiolivres. Beaucoup, en faisant du sport, en faisant d'autres choses. Mmh. Ça marche très bien. J'ai un monsieur dyslexique dans un salon qui m'a dit qu'heureusement pour lui que les audiolivres existaient. Enfin bref, je pense que tous les supports sont vraiment pertinents. Et aujourd'hui, on a l'immense chance de pouvoir développer des tas de supports différents qui peuvent convenir à tout le monde. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter.
L'histoire de Marc de Fabrique pourrait-elle inspirer un jour un scénariste ou être adaptée pour la télévision ou le cinéma ? Bon, là, c'est un rêve.
C'est un rêve, mais vous savez au point où j'en suis, déjà. Statistiquement, je n'étais pas censée être éditée. Alors, tout est possible.
Hein. Ah, tout est possible.
Tout est possible. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens qui lisent l'histoire me disent qu'elle est très cinématographique dans son récit et dans ses décors. Et c'est vrai que moi, en réalité, lorsque j'écris le film qui se déroule sous mes yeux. Je ne fais ni plus ni moins que de raconter ce que je suis en train de voir. Mais en réalité, c'est le film que j'ai conçu d'abord dans ma tête et je le raconte le plus vite possible. Donc peut-être que c'est ça aussi qui donne cette impression. Mais moi, je trouve que ça s'y prête très bien. Voilà, bien sûr. Mais, mais bon, là encore, et puis il y a un temps pour tout. Tout ne peut pas arriver non plus avec un premier roman et une première fois.
Alors, si jamais c'était le cas, vous verriez quels acteurs, quelles actrices pour jouer le rôle de Claude Tardy et Sœur Placide ?
Oh là là, aucune idée. Aucune idée, mais ça me porterait malheur de chercher. Je ne préfère pas.
Ah, sur votre page LinkedIn, pardon, vous avez rajouté romancière à vos expériences.
Oui.
Aujourd'hui, vous vous considérez plus romancière que présidente de société ?
Aujourd'hui, j'ai mis le un petit peu, c'est sûr, le travail, en tout cas mes missions autres et classiques, un peu entre parenthèses, pour faire ça. Mais pour autant, si à un moment donné, il y a nécessité, je suis toute disposée à aider des clients ou des amis devenus clients et qui peuvent avoir des besoins. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à me considérer un petit peu plus romancière, j'avoue. Et puis je profite, c'est quand même bien agréable et ça change, voilà. Donc je profite, je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc je profite.
Une nouvelle vie.
Oui, en tout cas une parenthèse enchantée dont je ne sais pas quand est-ce qu'elle se fermera.
Eh ben, merci Cécile Baudin d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci Michel, c'était très agréable.
Rappelons que vous avez sorti le 9 mars 2023 votre premier roman Marc de Fabrique dans la collection Terre de France aux éditions des Presses de la Cité. Comment peut-on se procurer ?
Partout. D'abord chez tous les libraires, potentiellement. Sur Internet, si on n'a pas accès à un libraire, sur tous les sites classiques. Et puis dans les salons autour de vous, qui sont aussi une bonne façon d'aller à la rencontre des auteurs.
Donc on pourra se le procurer à l'automne en format poche aux éditions
10-18. Et à l'automne aux éditions 10-18, absolument.
Donc deux fois moins cher. Deux fois moins cher.
Oui, probablement.
Et donc, on vous retrouve sur Internet, et c'est important parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, sur votre site Internet www.cécilebaudin.fr.
Oui, absolument.
Vous serez en dédicace, moi je le disais, au Centre culturel Édouard Leclerc à Bénaud le samedi 24 juin 2023. Et on attend la sortie en 2024 de votre deuxième roman, Là où le diable ne peut attendre, et en 2025 de votre troisième roman, Dur comme fer, et qui clôtureront la trilogie débutée avec Marc de Fabrique.
Absolument.
Cécile Baudin, bonne chance pour la suite de vos aventures.
Merci Michel.
Bonne écriture quand même.
Merci, je vous raconterai.
Bonne séance de dédicace et à bientôt sur Radio B.
À bientôt, merci.
Comment fait-on pour dissoudre le travail et la chaîne ? Comment fait-on pour découdre la chanson et la peine ? Canuse, chenuse, chenuse, canuse.